Le Forum de l'UNIS, en partenariat avec Drieux Combaluzier et TK Elevator, jeudi 9 septembre 2021, en direct du CESE à Paris.
Retour sur le plateau de Radio Immo après un déjeuner copieux. On a eu la chance d'assister à une conférence, la troisième de la journée, sur l'impact post-Covid sur les bureaux et les commerces. Le constat, les perspectives, on a eu la chance d'entendre trois intervenants qui nous font l'honneur d'être sur le plateau Radio Immo. J'accueille Denis Génito, président de la commission gestion locative de l'UNIS. Bonjour Denis.
Bonjour.
Ravi de vous avoir parmi nous pour échanger sur ce sujet.
Merci.
Christian Dubois, Head of Retail Service chez Cushman & Wakefield.
C'est parfait, bonjour.
What accent. Et Marie-Laure Leclerc de Souza, directeur Leasing Market Advisory at JLL, Jones Lang LaSalle.
Tout à fait.
Eh bien, très bien. Eh bien, écoutez, on va entrer tout de suite dans le vif de notre sujet. Alors, effectivement, il est question, là, sur cette table ronde, de parler du marché de bureaux et de commerce. On va commencer peut-être par Denis. Il a été évoqué le fait qu'il y a eu une espèce de flou artistique autour du gel des loyers pendant la pandémie. Pas mal de contentieux. La valeur locative, aujourd'hui, en deux mots, on en est où par rapport à tout ça ?
Alors oui, on a une période de sidération après l'annonce d'Emmanuel Macron du 16 mars 2020 qui nous a parlé de gel des loyers. Et donc c'était de la parole politique, de la communication politique, mais il fallait interpréter. Et ce sont les juristes qui se sont mis au travail. Et on a eu une ordonnance le 25 mars qui nous a indiqué qu'il ne s'agissait pas finalement de gel des loyers, mais d'interdiction de sanctions vis-à-vis du locataire. À la suite de ça... on a eu une période de négociation importante, on a eu des demandes des locataires et de leurs avocats pour s'exonérer du paiement des loyers. Et des accords ont été trouvés la plupart du temps, mais le gouvernement a dû intervenir et il nous a aidés à dialoguer et il a sorti une mesure qui a été intéressante et qui a permis de dénouer beaucoup de situations. C'est le crédit d'impôt de 50% sur le loyer du mois de novembre. Et au final, l'essentiel des cas sont réglés, mais il reste des procédures en cours, évidemment.
Du coup, je vais demander en pratique comment ça s'est passé. Marie-Laure Leclerc de Souza, comment vous l'avez vécu chez JLL cette période ?
Alors, il faut bien différencier que nous avons des clients assez différents avec Denis. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très complémentaire comme approche, puisque Denis et l'ensemble, justement, de la vision qui est faite des locataires est un peu différente de celles qui sont nos clients, qui sont des clients plutôt internationaux, de plus grosse taille, donc qui ont des comportements parfois un peu qui ne sont pas similaires, du moins dans leur approche. Nous avons connu un effet de sidération puisque l'année 2020 aurait dû être une année exceptionnelle sur la croissance des entreprises, sur l'activité économique. Évidemment, le 16 mars, tout s'est arrêté. Aucune transaction ne s'est faite pendant deux mois et on attendait de voir ce qu'il allait se passer et en même temps parler aux entreprises de la gestion de leur bureau à part pour leur dire qu'elles pouvaient économiser des surfaces, ça a été très difficile. Et en même temps, beaucoup d'entreprises ne savaient pas si elles y retourneraient, quand elles y retourneraient. Donc ça a été vraiment difficile, vraiment compliqué. Malgré tout, aujourd'hui, nous ressentons une dynamique différente et nous sommes en train, nous le pensons, nous l'espérons, d'avoir une année 2021 qui se terminera beaucoup mieux évidemment, s'est terminée l'année 2020.
Globalement, il y a quand même une capacité d'adaptation que vous avez pu observer.
Alors, je crois qu'il faut quand même distinguer les bureaux et les commerces.
Hein, bien sûr.
Ce dont je vous parlais, c'est les commerces, avec effectivement des tailles, des aides du gouvernement, beaucoup d'aides, mais avec des seuils, des paliers d'intervention, et toutes les entreprises n'ont pas pu bénéficier des aides au même niveau.
Alors je vais m'adresser maintenant à Christian Dubois. Les changements induits par cette période de pandémie, conjoncturels, structurels, que vous avez pu observer ?
Conjoncturels, nous sommes tous des consommateurs, nous avons donc tous été confinés. Évidemment, mes homologues parlent de sidération, je pense qu'en matière de commerce, les commerçants ont été sidérés, les consommateurs ont été sidérés. Et pour faire rapide, il y a eu un premier effet, évidemment c'est un effet booster sur le commerce électronique avec une part de marché qui est passée de 9,8% à 13,4% du commerce de détail. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est une transformation complète du business model, notamment dans le secteur de la restauration, qui à la fois est celui qui a été le plus impacté, parce que, et encore aujourd'hui, passe sanitaire oblige, les mesures ont été particulièrement drastiques sur cette restauration. Ça leur a permis d'accélérer leur innovation, sur le commerce électronique, qui vient rajouter à terme du chiffre d'affaires sur l'exploitation habituelle qu'ils pouvaient avoir. Ça a augmenté la tendance qu'il y avait déjà dans les difficultés sur le segment du textile. Et en revanche, ça a fait émerger quelques secteurs qui ont bien résisté. Le secteur du sport, de la santé, évidemment. Le secteur de l'équipement de la maison, avec une plus grande attention des personnes sur leurs intérieurs et leur santé, leur forme. Besoin de sortir, besoin, voilà. Donc plusieurs segments ont plutôt bien résisté. D'autres ont été plus compliqués.
Oui, effectivement, les secteurs d'activité, enfin, ce qui leur sort, c'est que les secteurs d'activité n'ont pas tous résisté de la même manière. On s'est tourné un peu vers son intérieur, son foyer. Donc, effectivement, ceci explique cela. On a pris le temps d'aller courir et de réaménager le salon. C'était un
c'est
petit
ça,
peu les deux.
Absolument.
Je crois que les magasins de bricolage, d'ailleurs, ont explosé à ce moment-là.
Hein. Oui.
Sur les commerces, centre-ville, centres commerciaux, Zach, vous en avez parlé tout à l'heure. Est-ce que les comportements des consommateurs étaient attendus? Est-ce qu'on s'attendait justement à ce que finalement le centre-ville résiste peut-être un petit peu moins bien que Non, je le tournerai plus à l'inverse. Est-ce qu'on s'attendait à ce que le centre commercial et la ZAC résistent ?
Alors, il faut distinguer vraiment ces trois formes de commerce. Et puis, il faut distinguer aussi les géographies. Ce n'est pas toujours les mêmes. La première surprise, oui ou non, le premier constat, ça a été une très bonne résistance, une très bonne résilience du milieu de l'immobilier commercial de périphérie à travers ce que l'on appelle les retail parks. Les retail parks, ce sont des centres commerciaux qualitatifs à ciel ouvert, qui comportent pour l'essentiel des moyennes surfaces et qui sont régis un peu comme les centres commerciaux à travers une grande mixité d'enseignes et d'activités. Très grande résistance, il y a de l'espace, on est à l'air, on n'est pas collés les uns contre les autres et donc il y a un effet bien évidemment attractif de ces équipements PFEC. Très bien aussi pour les commerçants qui ont des loyers qui sont petits sur place et donc quelque part, les bailleurs, les locataires, les consommateurs se sont tous retrouvés tranquillement en périphérie. Sur le centre-ville, ça a été beaucoup plus compliqué. On a vu à travers des études qui ont été réalisées avec notre partenaire MyTraffic que le centre-ville a atteint sur certains endroits moins 44% de flux sur l'année cumulée. Parfois, par exemple, sur les 4 arrondissements principaux de Paris, il y a eu plus de moins 50% de trafic à un lieu donné. Donc, le vrai sujet, c'est quels sont ces effets qui pourraient être au-delà du conjoncturel. Au-delà du conjoncturel, on a le structurel. Est-ce que ça a changé profondément notre comportement et nos mobilités? Oui, ça a changé nos comportements parce qu'il y a du télétravail. Marie-Laure reviendra dessus. Et que ce télétravail est parti pour durer. Et que quelque part, s'il est parti pour durer, ça va bouleverser le comportement des personnes. Est-ce que le télétravail sera le lundi et le vendredi? Est-ce qu'il se fera par obligation, quelque part, plutôt le mardi et le jeudi, puisque les entreprises n'ont pas envie que ce soit le lundi et le vendredi? C'était encore des points d'interrogation. Quelles seront les personnes qui seront concernées par ce télétravail? Et où sont-elles éventuellement situées? Ça, c'est un premier point qui est structurel. Le deuxième point qui est structurel, c'est les mobilités. Les mobilités, on le voit aujourd'hui sur Paris, mais pas que, on le voit également en province. La ville du quart d'heure, c'est devenu une réalité. Si c'est devenu une réalité, ça veut dire que certains commerçants qui étaient situés dans le cœur des villes et qui comptaient sur des consommateurs de la banlieue pour venir à l'intérieur vont se retrouver avec une zone de chalandise bien plus rétrécie. Et si cette zone de chalandise est bien plus rétrécie, il y aura moins de chiffre d'affaires. Et qui dit moins de chiffre d'affaires dit nécessairement moins de loyer, puisque le loyer en commerce est toujours indexé quelque part sur le chiffre d'affaires et sur la marge.
Mais du coup, il y aura une espèce de compensation, puisque qui dit ville du quart d'heure, si les banlieues effectivement vont plus forcément vers le cœur de ville, ça veut dire peut-être qu'on aura des villes du quart d'heure dans ces banlieues.
C'est exactement ça. Hein ? C'est exactement ça. Donc ça peut, si on voit la bouteille à moitié pleine, ça peut engendrer également peut-être une requalification et une revitalisation des petits cœurs de ville de banlieue. Absolument. Oui.
Non, ils seront plus dortoirs puisqu'on aura des commerces.
C'est ça.
Oui, exactement.
Voilà. Une transformation en tout cas de la banlieue dortoir à la banlieue ville du quart d'heure.
On aura aussi beaucoup d'achats par livraison.
Alors justement, on va en parler. Là, je vais vous interroger tous les trois sur cette question. Est-ce que la dichotomie entre commerce physique et commerce sur Internet, elle est révolue?
Complémentarité.
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 Marie-Laure.
La même chose, complémentarité.
Denis.
Oui, je pense qu'on peut dire ça. Oui.
Alors, est-ce que l'un de vous peut nous expliquer un peu pourquoi ce terme, ce choix de terme?
Ce choix de terme, c'est parce que déjà, plus aucun... Si vous prenez tous les commerçants qui ont créé leur entreprise pour avoir un modèle de vente sur Internet, ces mêmes commerçants recherchent aujourd'hui tous des emplacements physiques. Si l'on prend des enseignes qui, au contraire, sont des commerces physiques traditionnels, ils ont tous un site web marchand. Si vous prenez l'activité de restauration dont on parlait tout à l'heure, le chiffre d'affaires est additionnel grâce aux ventes Internet, grâce à la livraison à domicile, à travers les services de type Deliveroo, Uber Eats ou autres. Si l'on prend le click and collect, le trafic généré par l'achat qui est effectué depuis son ordinateur ou son mobile et qui est récupéré en magasin engendre du chiffre d'affaires en magasin. Donc, c'est un modèle aujourd'hui dans lequel on s'aperçoit bien que c'est une économie circulaire, complète. Et voilà pourquoi j'ai choisi ce terme de complémentarité.
Je note quand même que beaucoup de restaurants qui avaient mis en place le click and collect ont arrêté.
Alors ça concerne peut-être plus les boutiques, je ne sais pas, je me trompe peut-être.
Pour les restaurants, il y a un secret. Pour les restaurants, c'est très simple. Il ne faut pas que les consommateurs, les clients, rentrent dans le restaurant par la même entrée que les livreurs.
Ça prend l'espace.
Est-ce que c'est vraiment une perte d'attractivité absolue pour le restaurant? Donc pour certains restaurants qui effectivement ont choisi ce modèle et dans lequel les livreurs rentraient par l'artère principale, ça peut vraiment tuer l'attractivité physique du restaurant dans sa place. Pour les autres, eh bien, ils discutent avec leurs bailleurs pour essayer de voir comment ils peuvent à la fois créer une zone de tranquillité pour leurs consommateurs et leurs clients qui sont sur place ou en terrasse, et puis conjuguer tout cela avec une livraison qui ne soit pas perturbante.
En restant sur l'impact du Covid-19, j'aimerais interroger Marie-Laure, mais messieurs, bien sûr, je souhaite aussi avoir votre avis. Est-ce qu'on peut dire que notre territoire est résilient face à cette crise, et si oui, à quoi c'est dû, et quelles sont les différences éventuellement avec nos voisins européens?
Oui, notre marché est résilient. Notre marché est résilient parce qu'il est transparent, parce qu'il est pérenne, parce qu'il est globalisé et surtout parce qu'en fait, il est constitué d'un tissu économique représentant l'intégralité des activités du monde tertiaire. Donc de ce fait, nous ne pouvons pas connaître, quand nous avons une crise financière, nous n'avons pas une crise justement sur l'ensemble du parc immobilier. J'utilisais pendant la conférence l'image de la ville de Francfort qui est totalement bancaire, et quand justement vous avez une crise bancaire ou que le télétravail ne touche que certaines typologies d'entreprises et certaines typologies de postes, typiquement le marché immobilier de la même façon a des petits soucis à se faire, ce qui n'a absolument pas été le cas pour nous, puisque justement cette diversité nous permet de tenir le cap. Et aussi nous avons un tissu de PME, de PMI et d'ETI qui est assez fort en France, et nous n'avons pas uniquement des grands comptes et des clients corporate, donc des très grandes entreprises, mais nous avons un tissu économique qui est aussi assez diversifié et qui nous permet de résister.
Vous partagez cette vision, messieurs? Denis?
Oui.
Oui, absolument. On a un marché qui est résilient, on n'a pas à rougir, notamment du trafic. Enfin, y a eu au niveau du commerce, ce qui nous intéresse aussi, c'est le tourisme. Si nous n'avons pas eu beaucoup de touristes internationaux parce qu'il y avait des restrictions sur les voisins, on voit bien que les Français ont joué le jeu et qu'il y a eu un énorme tourisme national. Donc ça n'a pas tout compensé, mais oui, il y a eu une forme de résilience grâce au tourisme national.
Oui, c'est vrai, on a beaucoup entendu dans cette période de gens parler de leurs vacances et dire que finalement la France c'était pas mal et qu'il fallait la redécouvrir, parce que ça fait des années qu'on part à l'étranger en vacances, mais finalement y a pas mal de choses chez nous. Enfin, c'est un discours que j'ai beaucoup entendu.
Manque de chance pour certains, le temps n'a pas toujours été au rendez-vous.
Oui. Ah ben ça, je vous accorde.
Je pense qu'on a à craindre pour l'année prochaine.
Je vous accorde que ceux qui ont choisi le Sud ont eu le nez fin. Le télétravail, qui est l'un des... Bon, c'était En Marche, mais qui est quand même l'un des changements majeurs de cette crise, de cette pandémie. Est-ce que d'après vous, il rend le marché incertain, Marie-Laure?
Alors, pas incertain, mais aujourd'hui, il fait que les entreprises ne peuvent pas prendre de décision, puisqu'en fait, leur charte de télétravail, pour la plupart d'entre eux, n'a pas été encore signée. Donc, c'est le premier sujet qui fait que c'est compliqué. Par contre, sur le télétravail, il faut bien avoir en tête, comme le disait Christian, on ne va pas pouvoir se permettre tous d'être en télétravail le même jour. Deuxièmement, toutes les activités ne peuvent pas se télétravailler. Donc là, il faut éviter aussi l'écart col bleu, col blanc, et au sein d'une même entreprise, les départements support, dits support, et les départements rencontrant des clients typiquement. Donc là, tout le monde n'est pas télétravaillable non plus.
Bien sûr.
Donc ça, c'est très important. Et en même temps, quand on télétravaille et qu'on a une partie de ses interlocuteurs qui sont en physique dans le bureau, les réunions sont très compliquées, c'est très difficile, on perd du temps, la sociabilisation n'est pas la même. Donc ça nécessite aussi des aménagements qui vont prendre de la place. Donc aujourd'hui, on ne peut plus imaginer uniquement avoir des grands espaces ouverts et quelques salles de réunion. Il va falloir avoir une hybridation des espaces de travail, sans doute moins de places individuelles, mais ça, c'est l'accélération du phénomène de flex-office. C'est-à-dire quand on arrive, on n'a pas son poste
son bureau,
avec la photo de son
partage.
Chien. Voilà, mais on le partage et en fait, il évolue au fur et à mesure de la semaine. Tout le monde n'est pas au même endroit, même s'il y a des territoires d'équipe en général. Il y a toujours des salles de réunion par cette volonté de vouloir se réunir. Et il va falloir un troisième lieu au sein des mêmes entreprises pour avoir du télé, enfin du moins de la digitalisation de ses clients qui sont en télétravail et vous-même en physique. Et ça, vous ne pouvez pas le faire n'importe où. Donc il va falloir beaucoup plus aménager. Ce seront des espaces fermés. Et les 28 à 30% de surface en moins dont on parle aujourd'hui, impact du télétravail, vont être totalement pris par justement cette hybridation des espaces. Et on le voit déjà, chacun de nos clients qui ont déjà déménagé, qui ont mis en place le télétravail, donc ceux qui sont très en avance, nous disent catastrophe, pour justement pouvoir faire du physique et du digital, il faut être dans une salle de réunion, et si on n'a pas envie d'avoir un casque toute la journée, ben on a besoin d'un espace fermé, d'un espace aménagé, agréable, climatisé, dans lequel on peut justement gérer les gens à distance. Donc le vrai impact du télétravail, c'est cette accélération des tendances qui existait avant la pandémie et qui va faire que les gens vont beaucoup plus être mobiles dans la journée, dans leur espace de travail. Ils iront d'endroit en endroit au lieu de rester sur leur poste unique. Et ça, ça mérite de la surface.
Est-ce que vous, chez JLL et chez Cushman, vous accompagnez les clients sur ces réflexions ?
Tout à fait.
Oui, tout à fait.
Tout à fait.
Tout ça, à fait. Les deux, nos deux entreprises sont accompagnent en les clients sur ces réflexions d'espace et d'allocation d'espace au travail.
Tout
donc,
à fait.
Vous le faisiez, c'est une activité qui existait déjà, mais que vous avez donc développée.
Alors, c'était une activité qui existait déjà, donc qui est très anglo-saxonne au départ. Donc c'est vraiment chez nous, nous avons recruté il y a une dizaine d'années des sociologues. Donc en fait, pour accompagner les entreprises, nous sommes devenus organismes de formation pour justement aller au cœur des entreprises, interviewer les entreprises et aussi former les directeurs immobiliers, former l'ensemble des acteurs de l'immobilier au cœur des grandes entreprises pour qu'elles s'adaptent et qu'elles suivent ces évolutions du travail.
Et est-ce que vous parlez aujourd'hui... Allez-y, je vous en prie.
Non, c'est Christian peut-être qui voulait ajouter quelque chose.
Absolument.
Christian, alors, vous
chez Cushman & Wakefield, nous, notre stratégie a consisté, les deux dernières années, d'acquérir le cabinet Réponse, qui faisait du design and build, et qui maintenant s'appelle Cushman & Wakefield Design and Build, lequel cabinet a pour réflexion non seulement d'avoir une idée sur l'assistance maîtrise d'ouvrage, mais en lien avec les équipes transactionnelles, en lien avec l'ensemble des équipes, accompagner nos utilisateurs, ou parfois d'ailleurs les propriétaires bailleurs, sur la réflexion de l'aménagement de l'espace et des grandes tendances de demain. Donc oui, de la même façon. On n'a pas encore de sociologue.
C'est vrai que ça va loin, la question que je me pose quand je vous entends parler d'hybridation justement des espaces de travail, c'est est-ce qu'aujourd'hui il y a une réflexion de sociétés comme les vôtres sur l'hybridation de l'espace personnel, à savoir son habitat dans lequel, alors je vois Denis réagit là, mais j'ai lu notamment dans cette période de pandémie des articles qui disaient qu'il fallait absolument faire en sorte que les promoteurs construisent des pièces plus grandes parce que les gens doivent intégrer un bureau chez eux et qu'en France, on est quand même la dernière roue du carrosse parce que nos espaces sont quand même sensiblement plus petits dans nos maisons, dans nos appartements que nos voisins européens. La chambre de 9 mètres carrés, c'est peut-être évolu. Alors, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est pas vrai partout. En Allemagne, c'est vrai. En Angleterre, c'est pas vrai. Mais aussi, en Angleterre, ça fait des années qu'ils appellent ça le commuting. Mais vous avez très peu de cadres qui habitent à Londres. Ils habitent à une heure en train. Donc, c'est comme si nous prenions tous un train tous les jours. Donc, ce sont des habitudes différentes. Et effectivement, quand vous avez une maison à la campagne, elle vaut un petit peu moins cher qu'en centre-ville. Tandis qu'on est vraiment sur une centralisation à Paris. Et donc, nous avons aussi. Nous offrons, même si les promoteurs... Enfin, construire un immeuble, ça prend du temps. Hein. Déposer un permis, ça prend du temps.
Surtout
donc on
ne
peut pas
moment.
Se dire... Non, mais surtout en ce moment avec les questions politiques, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, on ne peut pas réagir du jour au lendemain. C'est toute une mise en œuvre. Donc, on essaye de s'adapter. Donc, avec notre filiale Tetris Design and Build, je peux faire un clin d'œil à Christian, On a mis en place justement des offres pour les entreprises où nous offrons des packages. Donc un consultant va au domicile donc, des collaborateurs et fait travail avec un ergothérapeute sur la façon donc, de travailler au mieux, vend un bureau de la bonne taille avec un ordinateur, un
donc
siège.
Vous le faites, vous proposez ce service.
On le fait, mais on le faisait avant la pandémie.
Alors, Christian a l'air surpris.
C'est l'ergothérapeute. Mais très
après
bien.
Le sociologue, très bien. L'ergothérapeute.
Je trouve que d'abord, c'est un débat qui est très intéressant. Moi, j'ai un regard qui peut être un tout petit peu différent. Alors, je ne sais pas si on élargit un peu le débat, mais je crois de moins en moins à la monovalence. Je crois que les problématiques qui se posent demain sur la construction, de façon générale, quels que soient les territoires, c'est d'arrêter de mettre dans des petites cases des immeubles de bureaux d'un côté, des immeubles de logement de l'autre, des immeubles de commerce dans un troisième point. Et les réflexions qui sont complexes, qui sont longues, et on parlait des lenteurs administratives, au même titre que l'on réfléchit sur son espace intérieur, la société réfléchit sur son espace extérieur. Et je parlais tout à l'heure de cette fameuse ville des 15 minutes. Même dans les périphéries, la façon dont on va retravailler et requalifier les entrées de ville ne sera pas demain que sur un nouveau retail park de commerce. Elle ne sera pas demain que sur un nouveau immeuble de logement ou un immeuble. Non, c'est un ensemble sur un territoire dans lequel on retrouvera peut-être du médical, peut-être de l'hôtellerie, peut-être du logement, certainement du bureau. Quel type de bureau ? Peut-être du coworking. On retrouvera des espaces de commerce qui sont plutôt de la restauration avec une proportion de restauration peut-être un peu plus forte, créer de la proximité, créer de l'envie dans cette proximité. Donc, sans m'apesantir sur l'espace intérieur, nous, ce qui nous intéresse aussi en réflexion chez Cashman & Wakefield, c'est l'espace extérieur et l'aménagement des territoires.
Ça me fait penser à cette initiative lancée par le ministère du Logement qui s'appelle, je crois, Habiter la France de demain. Mais c'est comment on va penser la ville demain. Et en fait, on s'aperçoit que depuis l'Empire romain, ça n'a fait que d'évoluer. On teste et puis quand on n'est pas satisfait, ben on finit par changer. Parfois, c'est les changements d'usage qui nous font avancer. Et puis, c'est un sujet très vaste et on n'aura pas le temps ici d'en parler. Mais Denis, j'aimerais votre avis sur cette question parce que je vous ai vu vous...
Non, bah oui, parce que
vous cabrez.
Les conditions de télétravail à domicile, c'est quand même une chose importante et tout le monde ne bénéficie pas des bonnes conditions chez soi pour travailler. Ce que je peux vous dire en tant que gestionnaire de logement, c'est qu'on n'a jamais eu autant de congés de gens qui voulaient justement partir en région, trouver un appartement plus grand. On n'a jamais eu autant d'offres de logements disponibles à Paris depuis le premier confinement. En fait.
Et oui. Eh bien, écoutez, malheureusement, notre émission va toucher à sa fin. Dernière petite question. On en a aussi beaucoup parlé pendant ce confinement. Vous avez abordé la question en conférence. L'exode des grosses métropoles vers les villes moyennes, c'est un vrai sujet aujourd'hui, Marie-Laure ?
Alors, il y a une vraie volonté, comme Denis l'a dit à l'instant, d'avoir des meilleures conditions de vie, parce que tout le monde a eu aussi un électrochoc. Tout le monde s'est dit, est-ce que c'est bien chouette d'être dans une vie où on est dans un petit appartement, où on fait du métro-boulot-dodo ? Enfin, on a inventé cette syntaxe il y a déjà une cinquantaine d'années, hein, c'est pas tout nouveau. Donc on est en train vraiment de se poser des questions. Malgré tout, ce qui est parfois un peu utopique, c'est de se dire est-ce que justement dans les régions on va pouvoir avoir un tissu économique stable et offrant un large panel d'emplois pour accueillir tous les gens qui vont justement aller en région. Ce serait génial. Maintenant, il faut que tout s'accompagne. J'aurais tendance à dire, quand je vous parlais tout à l'heure aussi de choc, certains collaborateurs de nos industries immobilières partent pour devenir boulangers, menuisiers, ouvrent d'autres typologies de commerce ou d'entreprises parce qu'ils veulent changer de vie. Ça passe par le départ en région. Est-ce que ça peut justement être viable à terme ? On en rêve. Maintenant, c'est une question qu'on pourra se reposer régulièrement.
C'est une grande question. Est-ce que chacun va trouver sa place ? C'est ça un peu l'idée peut-être d'une société, c'est que chacun soit à la bonne place et il y a des transformations. Denis ?
Oui, effectivement. Est-ce que tous les employés de la restauration qui sont parvenus sur leur lieu de travail vont trouver une activité rémunératrice ? On ne sait pas.
Oui, puis est-ce qu'ils sont tous faits pour être dans la restauration ?
Ces gens-là sont plutôt travailleurs.
C'est sûr.
On constate incontestablement que les marchés en immobilier de commerce résistent mieux en province ou dans les régions qu'ils ne résistent sur la métropole. Ayant dit ça, on constate également une augmentation des prix au mètre carré de l'habitation dans les grandes et moyennes villes de province. Parallèlement, il ne faut pas oublier les difficultés de ces villes moyennes. On parlait de villes moyennes. Action cœur de ville, petite ville de demain, c'est une réflexion et des investissements colossaux pour redonner à ces cœurs de ville moyennes un peu d'attractivité. Donc, oui, je pense que cet argent n'est pas vain et que la tendance sera à long terme de repeupler ces villes. Mais on n'est pas tout d'un coup du jour au lendemain, parce que le Covid, il n'y a pas eu de désertification de Paris et hop, tout le monde en province. Ça serait bien pour certaines villes de province. En revanche, je pense que sur le long terme, je crois qu'entre l'argent qui est investi, la capacité d'accueil de ces villes, et l'envie peut-être d'avoir une meilleure qualité de vie, une vie plus apaisée, plus reposée, il pourrait y avoir évidemment de multiples activités, de multiples opportunités sur ces villes moyennes. Ayant dit ça, la structuration de l'immobilier de bureau sur ces villes moyennes, elle est quand même plus compliquée. Le nombre de preneurs, les marchés immobiliers, ils restent quand même très majoritairement Île-de-France. Et puis on a le chantier du Grand Paris qui va élargir les murs du périphérique, en tout cas nous l'espérons.
Les Jeux Olympiques également qui vont se lancer. Enfin, il y a des gros chantiers quand même en cours. Écoutez, je vous remercie, c'est passionnant. On pourrait en parler encore une fois pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas le temps. Je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vous souhaite un excellent 9e forum de l'UNIS Île-de-France Grand Paris. Et vous pouvez retrouver bien sûr cette interview sur Radio Immo en podcast. À très bientôt.
À très bientôt.
Le Forum de l'UNIS, en partenariat avec Drieux Combaluzier et TK Elevator, jeudi 9 septembre 2021, en direct du CESE à Paris.